Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On demande régulièrement qui je rêverais d'enregistrer sur ce podcast. Et mon invité du jour, Mathieu Ricard, fait totalement partie des personnes que je rêvais de rencontrer. Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste qui a passé 50 années de sa vie au Tibet à analyser les textes, à apprendre de ses maîtres sacrés. C'est aussi le traducteur du Dalai Lama. Il a un surnom qui est l'homme le plus heureux du monde. Et puis, c'est également un docteur en génétique. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Carnet d'un moine errant », mais il a évidemment écrit de nombreux ouvrages au cours de sa vie. Avec Mathieu, on parle de nombreux sujets, mais en particulier de la liberté intérieure. On parle d'amour inconditionnel, on parle de neurosciences, on parle de la vie profonde, on parle de ce que ça veut dire d'être reclus pendant autant d'années. On parle aussi du fait de savoir s'il est possible d'aider l'humanité quand on est seul comme ça, loin du monde. On parle aussi de tout ce côté narcissique du développement personnel et de ce que ça implique, de ce que ça veut dire de méditer. Bref, une conversation que je trouve évidemment, pour le coup, vraiment hyper importante. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Mathieu.
Bonjour cher ami.
Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien?
Ah, comment je me sens? Écoutez, la vie est belle, d'un certain point de vue. Et puis, si on va au fond du fond, derrière les rideaux et les vagues des pensées, il y a toujours quelque chose qui ne change pas. Une sorte de présence ouverte. Et le reste, ce sont des constructions mentales qui viennent parfois obscurcir, parfois qui sont changeantes. C'est la périphérie du mental. Mais l'essentiel ne change pas. C'est un mélange de sérénité, de vision claire, de pleine. Et voilà, si on arrive à aller derrière le rideau des pensées, c'est toujours là.
Comment justement on arrive à être serein dans un monde qui bouge de crise en crise, en fait, qui devient de plus en plus compliqué?
Il y a deux aspects. Il y a d'une part, comment est-ce qu'on interagit avec le monde? Donc essayer de, dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, du temps, de l'énergie dont on dispose, d'essayer de remédier à pallier la souffrance, d'apporter un peu de bien-être. Et puis, la façon dont on fait nous-mêmes l'expérience des choses. Et là, ça dépend de la façon dont fonctionne notre esprit. Donc ça, c'est influencé par les conditions extérieures, mais n'est pas dépendant des conditions extérieures. C'est-à-dire, en fait, c'est notre esprit, en fin de compte, qui transforme les conditions extérieures, ou les traduit en bien-être ou en mal-être. On sait très bien qu'on peut, la façon dont fonctionne notre esprit peut éclipser les conditions extérieures jusqu'à un certain degré, et on peut être misérable dans un petit paradis, comme conserver sa voie de vivre dans des conditions adverses. Donc, bien sûr, l'esprit ne fait pas tout, mais quand le seul recours que l'on a, parce qu'on est notre maîtrise des conditions extérieures est limitée, illusoire et temporaire, au moins on peut travailler sur la façon dont notre esprit interprète tout ça. Et on a affaire à lui du matin au soir, donc on a intérêt à avoir un esprit qui fonctionne de manière plus optimale. Et donc la sérénité, c'est à quel point est-ce que nous sommes vulnérables au haut et au bas de l'existence. Et si on a trouvé une certaine sérénité, c'est qu'on a construit les ressources intérieures qui nous permettent de traverser les hauts et les bas de l'existence en conservant notre équilibre émotionnel et un état de manière d'être optimal. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on est indifférent au sort des autres, bien loin de là. Mais il y a des êtres concerné par le sort des choses avec bienveillance, c'est un état d'esprit qui est constructif, qui mène à la sérénité, qui n'est pas, c'est pas un esprit, un état d'esprit perturbateur.
Donc c'est en dans une forme de d'empathie qu'on va aller chercher.
L'empathie, c'est un état mental qui est extrêmement important, car l'empathie, il y a l'empathie affective, c'est une résonance avec l'état affectif de l'autre. Si l'autre est joyeux, vous êtes joyeux. S'il est triste, vous êtes triste. S'il souffre, vous souffrez. Et l'empathie cognitive, qui est de se mettre à la, enfin, d'imaginer ce que l'autre ressent sans pour autant le ressentir. Alors l'empathie est absolument nécessaire parce qu'elle nous renseigne sur la condition de l'autre. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'empathie parce que si justement vous raisonnez continuellement avec la souffrance de l'autre, par exemple, je sais pas, des personnels soignants, des gens qui s'occupent des migrants, des sans-abri, eh bien comme c'est l'effet que cela a sur vous, eh bien, si c'est de la souffrance et encore de la souffrance et toujours de la souffrance, à un moment donné ça devient un fardeau insupportable, donc il y a un épuisement émotionnel, une détresse empathique et un burn-out. Par contre, l'amour altruiste, la compassion est tournée vers l'autre. Ce n'est pas l'effet que ça a sur vous, c'est vers l'autre. Comme un médecin sur le champ de bataille, il ne va pas pleurer dès qu'il voit un malade ou un blessé, il va faire ce qu'il peut. Et être tourné vers l'autre avec compassion, ça régénère vos forces. C'est comme un baume sur la détresse empathique. Ça a été montré en neurosciences, avec les travaux que j'ai collaboré avec Tania Singer, que en fait, la bienveillance est un remède à la détresse empathique.
Une question, parce qu'effectivement, vous êtes docteur
en génétique moléculaire.
C'est toujours un peu étonnant, quelqu'un qui vient de la science, mais on a dû vous poser la question mille fois, où souvent il y a deux courants quand même dans la science. Il y a des courants qui sont très cartésiens de ce qui se passe, je ne crois que ce que je vois. Et puis de l'autre côté, il y en a qui sont plus ouverts, on va dire. Mais vous parlez beaucoup de la réincarnation, par exemple. Vous parlez beaucoup de tous ces sujets-là, qui sont souvent pas en accord, parce que la science n'est pas capable de le prouver. On n'est pas capable de prouver l'inverse non plus. Mais...
Alors finalement, la science, qu'est-ce que c'est ? C'est une poursuite, une investigation rigoureuse de la réalité. C'est-à-dire d'abord une découverte, hein, on découvre ce qu'on ne connaît pas, et puis ensuite un mode d'explication des phénomènes naturels, biologiques, et aussi de prédiction, c'est-à-dire que si telle ou telle loi mathématique, physique, ou par exemple loi de la génétique sont connues, on peut prédire ce qui va se passer avec un degré de justesse qui fonctionne. Donc, est-ce que la psychologie, il y a des sciences qu'on appelle les sciences douces, parce que ce n'est pas des mesures avec des appareils, mais la psychologie fait partie de ça aussi, parce que bon, ben c'est quand même une science de l'esprit, parce qu'il y a des mécanismes, on sait que la haine, ça n'a jamais rendu personne heureux. Et d'un point de vue, c'est une science, on a une prédiction, la haine ne vous rendra pas heureux, et le résultat, c'est qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le bouddhisme, d'un certain point de vue, un des buts de la philosophie bouddhiste, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. On pense que les choses sont plus ou moins stables. La tasse qui est devant moi, c'est la même qu'hier. Non, ce n'est pas la même qu'hier. L'impermanence grossière et subtile fait qu'elle change à chaque instant. Donc déjà, c'est une distorsion de la réalité. On pense que cette tasse est une entité isolée, c'est-à-dire qu'elle tient bien la route toute seule. En fait, pas du tout. Tout est interdépendant. Cette tasse n'existe que par l'intervention de peut-être de centaines de personnes. Le kaolin vient de je ne sais pas où, etc., etc. La peinture peut-être de Tchécoslovaquie. Et puis de toute façon, tout est intimement relié par nature dans le monde des phénomènes. Donc les choses ne sont pas autonomes. Donc tout ça, c'est des distorsions de la réalité. Donc une analyse correcte de la réalité, c'est un procédé, on peut dire, scientifique. Ça vise à combler ce fossé. Donc moi, en ce qui me concerne, je considère que le bouddhisme est une science de l'esprit, non pas que c'est une science exacte, réductionniste ou autre, mais en gros, elle essaie de comprendre les mécanismes de l'esprit, essaie d'analyser un peu ce que peut être la nature ultime de la conscience, et puis de mettre ça à l'épreuve de l'expérience. C'est une science finalement empirique, parce que c'est juste pour postuler des grandes idées qui n'ont aucun moyen d'être vérifiées, c'est pas scientifique. Non, vous faisiez allusion à cette notion de réincarnation. Bon, c'est quelque chose qui, culturellement, est extrêmement chargé en Occident. En Orient, ça fait partie de la culture, ça ne dérange personne. Ici, on vous prend pour un toqué. Mais finalement, la question, se résume à quelle est la nature ultime de la conscience. Bon, on peut dire c'est totalement réductionniste matérialiste, c'est le ni plus ni moins que le fonctionnement du cerveau, qui est une structure matérielle dont la complexité croissante mène à la conscience. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la conscience, c'est aussi en relation avec le monde extérieur, en relation avec les autres, donc ça, c'est intangible. La relation à autrui influence la conscience, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre le doigt dessus. Donc, si vous voulez, les neuroscientifiques pensent qu'ils finiront par tout expliquer en faisant une cartographie de tous les 300 milliards de neurones. C'est possible. Mais ce qu'on appelle le problème difficile, parce que le problème facile, ça serait d'avoir la carte de 300 milliards de neurones. C'est pas si facile que ça, mais on peut l'imaginer. Par contre, le problème difficile, c'est que la conscience, le fait d'être conscient, précède tout ça. Pour étudier le cerveau, il faut déjà que vous ayez une conscience. Mmh. C'est un phénomène, un fait premier. Et que ça ne résout pas le fait que, même si vous décrivez jusqu'au dernier neurone tout ce qui se passe quand vous voyez la couleur rouge, vous sentez de la joie ou de la haine, si vous n'en avez pas fait l'expérience subjective à la première personne, même si vous savez exactement ce qui se passe dans le cerveau, ça ne vous donnera aucune idée de ce qu'est cette expérience. Donc, si vous voulez, les philosophes de la conscience, les phénoménologistes, les neuroscientifiques, les gens de la philosophie bouddhiste discutent de ces questions depuis longtemps. Mmh, mmh. La question reste ouverte d'un certain point de vue. Et donc, c'est beaucoup plus que simplement une adhésion à une valeur culturelle ou à un dogme qui a été édicté dans un texte sacré. C'est une question d'investigation. Donc, la réponse n'est pas encore là. Les neuroscientifiques penchent vers une opinion réductionniste. Les bouddhistes disent avoir des raisons de penser que ça ne se réduit pas entièrement au cerveau. Ben, on n'en est pas au point d'épreuve. Il y a des faits qui, s'ils s'avèrent vérifiables, exacts, etc., remettraient en question le paradigme actuel. Mais bon, c'est très difficile de les prouver dans des conditions de laboratoire, comme la transmission de pensée ou autre chose comme ça. On peut en être témoin, mais on n'a pas de mécanisme pour expliquer, donc on est un peu dans le vague à ce sujet-là.
Et vous parliez tout à l'heure de la compassion, de prendre soin des autres. Et bien sûr, vous abordez le sujet dans votre bouquin, mais on pourrait opposer à quelqu'un qui vit reclus d'être un peu trop loin, justement, de cette société qui bouge vite, qui souffre parfois. Est-ce que, entre l'activisme, on va dire, enfin, il y a plusieurs postures. Il y a une posture de « je fais rien », et voilà, ça c'est la posture de la majorité des gens, malgré tout. Il y a une posture d'activisme, en tout cas en Occident. Il y a une position d'activisme, et puis il y a une position de... Contemplative, exactement. Il y en a sans doute beaucoup plus que ça, mais en tout cas, il y en a trois grandes, on va dire.
C'est quoi la troisième?
La troisième, c'est contemplative. La deuxième, c'est activiste, et la première, c'est...
Rien faire. J'avais pas pensé à celle-là.
Ce qui est la majorité, finalement.
Bon. Ben oui, en fait, c'est à la fois un bon débat et un faux débat. Parce que, en fait, si on voit même dans le monde de l'humanitaire que je suis impliqué, parce qu'on dit qu'on fait rien, regardez son nombril dans un ermitage, maintenant, avec Karuna Sechen, l'organisation que j'ai fondée, auquel dédié 100% de mes droits d'auteur, pour ceux qui pensent que je me remplis les poches, y compris ceux pour les carnets du moine errant dont nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, aide 350 000 personnes par an en Inde, au Népal et au Tibet, dans le domaine de l'aide sociale, la santé, les femmes, l'éducation, etc. Mais ceci dit, dans le monde de l'humanitaire, on voit comment ça déraille très souvent. Ben, c'est lié à des défauts humains, la corruption, les conflits d'égo. C'est pas qu'il n'y a pas de ressources, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais ça déraille quand même. Bon, ben on se dit peut-être qu'une des formations d'une ONG, pour travailler dans une ONG, ça pourrait être d'avoir créé davantage de résilience, moins d'ego et plus de compassion. Donc si l'un des buts du contemplatif, c'est de se défaire de l'égoïsme, pardon, on ne peut pas dire que c'est une démarche égoïste. C'est comme si vous disiez, vous perdez votre temps en allant dans un hôpital pour vous soigner, quoi, en gros. Mmh. Ou alors vous disiez, ben, vous construisez un hôpital, oh ben, ça ne sert à rien. Tous ces murs en ciment, toute cette électricité, pourquoi vous ne les opérez pas dans la rue tout de suite? Alors, ça peut être nécessaire quand il y a un tremblement de terre. Mais enfin, en gros, quand même, un hôpital, c'est utile. Donc, si vous voulez, c'est construire un hôpital intérieur pour ensuite mieux se mettre au service des autres. Mais si vous n'avez rien à mettre au service des autres, Vous êtes complètement vous-même déboussolé, partagé par des émotions contraires et perturbatrices, sujet à la colère, à la moindre incitation. Ben, vous n'allez pas beaucoup plus aider les autres qu'un mendiant qui veut offrir un banquet à 100 mendiants. Il n'a rien à leur donner, en gros. Donc, je pense que l'idée de se transformer soi-même pendant un certain temps jusqu'à qu'on soit prêt à être au service des autres, ben, c'est une étape nécessaire. Et dans le bouddhisme, ça peut durer longtemps, parce que si vous n'êtes pas prêt, à quoi ça sert? C'est comme de tirer sur du blé en herbe, ça ne fera pas pousser plus vite, vous allez arracher la plante.
Vous parliez de vie intérieure, et ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la liberté, on en parle beaucoup de la liberté. On parle beaucoup de la démocratie, du manque de liberté, on parle aussi beaucoup de la liberté par l'argent. J'ai reçu Annick de Souzenel, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui disait que l'argent, c'était une illusion de liberté. La liberté, a priori, elle est intérieure. Comment on fait, enfin, ça m'intéresse de comprendre, selon vous, comment on fait pour aller chercher cette liberté intérieure?
Déjà, la notion de liberté, évidemment, très mal comprise, surtout aujourd'hui. Mmh. J'ai entendu une jeune fille, une fois, sur la BBC, la radio anglaise, qui disait, pour moi, la liberté, ça serait de faire tout ce qui me passe dans la tête, sans que personne ne trouve rien à redire. Alors, d'abord, ce n'est pas de la liberté, parce que tout ce qui lui passe par la tête, ça veut dire qu'elle est complètement l'esclave de ses fabrications mentales. Et généralement, ça mène droit au naufrage. Mmh. D'autre part, la liberté, faire tout ce qu'on veut sans penser aux autres, c'est Shakespeare qui disait que la liberté sans frein est toujours mariée avec le malheur. Il avait prévu le coup. Donc il y a suffit de voir le quatrième article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que notre liberté s'arrête quand on commence à causer du tort à autrui. C'est tout simple. Il n'y a vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf ce qui fait du tort à autrui. C'est quand même pas compliqué, non? Je ne sais pas pourquoi tout le monde maintenant a revendiqué une liberté, même au prix de, éventuellement, de faire du tort à autrui. Bon, alors, voilà. Et puis alors, quand ils parlent de liberté, souvent, c'est de faire tout ce qu'ils veulent. Bon, pour une fois, pour moi, ce n'est pas la liberté. La vraie liberté intérieure, c'est justement d'être libre par rapport à vos conditionnements qui vous font péter les plombs dès qu'on vous provoque, que vous êtes complètement vulnérable à la critique ou à la louange, vous vous enflez comme une baudruche dès qu'on vous fait vos louanges, vous êtes vexé ou en colère quand on vous critique, et vous êtes en fait le jouet de vos émotions toxiques, et donc vous n'êtes pas libre du tout. Donc l'idée de conquérir la liberté intérieure, c'est de se débarrasser de ces automatismes mentaux, d'être maître de votre esprit. En fait, la maîtrise de l'esprit, c'est la liberté. Ça peut paraître contradictoire, mais pensez à un marin. Un marin, il pourrait dire, la liberté, c'est de laisser le bateau dériver au gré des vents et des courants. Généralement, ça se termine par un naufrage. Donc, la liberté pour un marin, c'est de prendre la barre du bateau, d'hisser les voiles, de les régler, de garder son compas et de voguer